Les derniers jours de l'apôtre Paul. Auteur, Adrien Ladrière. Luc, l'historien inspiré du livre des Actes, termine son récit à l'arrivée de Paul à Rome comme prisonnier. On aimerait connaître la suite de l'histoire de ce grand et fidèle serviteur de Dieu, de ce vase d'élection qui devait porter le nom du Seigneur devant les nations et les rois, et les fils d'Israël, Actes chapitre 9 verset 15. On désirerait savoir quelle fut la fin de sa carrière de dévouement à son maître. Le Seigneur n'a pas jugé à propos de nous l'apprendre directement par un récit inspiré. Il n'avait pas en vue de nous donner, dans les Actes, la biographie d'un homme, si excellent fut-il, mais de placer devant nos yeux l'établissement sur la terre de son Église, par la puissance du Saint-Esprit et par le moyen des instruments qu'il avait choisis pour cela. Toutefois, en lisant avec soin les épîtres de l'apôtre, et en recueillant ce qu'il y dit de lui-même, nous pouvons apprendre bien des choses qui se rapportent à la dernière période de sa vie ici-bas. Je me propose, dans ces lignes, de chercher à la retracer. Nous savons dans quelles circonstances l'apôtre prisonnier avait été conduit à Rome. Afin d'échapper aux embûches que lui tendaient les Juifs pour le faire périr, il en avait appelé à César, c'est-à-dire que, comme citoyen romain, il avait demandé à être jugé par l'empereur lui-même. Or, à cette époque, l'empereur romain était Néron, si tristement célèbre pour sa cruauté et ses mœurs dissolues. Cependant, au commencement de son règne, docile encore à la voix de sages conseillers, il se montra doux et équitable. C'est à ce moment que Paul fut amené à Rome. Le centurion Jules, à qui la garde de l'apôtre avait été confiée, et qui lui avait témoigné une grande bienveillance durant le voyage, le remit, avec les autres prisonniers, au préfet du prétoire, c'est-à-dire à celui qui commandait la garde de l'empereur. Le prétoire était le lieu où résidait cette garde avec son commandant. Note, on donnait aussi ce nom à la résidence des gouverneurs de province, Jean chapitre 18 verset 28. Les soldats qui la composaient étaient les prétoriens. Le préfet du prétoire entre les mains duquel Paul fut remis, était alors Burrus, homme que les historiens anciens représentent comme probe et vertueux. Il avait été gouverneur de Néron et s'était constamment efforcé de réprimer ses penchants vicieux. Le centurion Jules lui fit, sans doute, sur l'apôtre, un rapport favorable, lui racontant que c'était à ce pauvre prisonnier que lui, ses soldats et l'équipage devaient la vie, et rendant témoignage à la conduite noble, pieuse et courageuse de Paul. Quoi qu'il en soit, Burrus traita Paul avec égard et bonté, et lui permit de demeurer chez lui avec un soldat qui le gardait, Actes chapitre 28 verset 16. De même que Félix et Festus, le préfet du prétoire eut peut-être l'occasion d'entendre l'évangile de la bouche de Paul. En tout cas, d'autres dans le prétoire l'entendirent. En effet, le soldat qui gardait l'apôtre était un prétorien, que l'on changeait chaque jour. Il ne devait pas quitter un instant le prisonnier, qui, de cette manière, était constamment en contact avec lui. Situation pénible, sans doute, car le soldat pouvait être rude et grossier, mais qui donnait à Paul une occasion de parler de l'Évangile à ceux qui successivement le gardaient, et nous pouvons bien penser que l'apôtre, étreint par l'amour de Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, et avide du salut des âmes, n'avait garde d'y manquer. Un grand nombre l'entendirent ainsi parler du Seigneur et des richesses de sa grâce. En même temps, ils étaient témoins de sa patience dans les liens, de sa douceur, en un mot de la vie de celui qui pouvait dire « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi » Galates chapitre 2 verset 20. De sorte que la vie de Jésus était manifestée dans sa chair mortelle, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 11. Quelle impression devait être produite sur eux? Rien ne frappe davantage les gens du monde que la vue d'un chrétien qui marche réellement avec Dieu. Tel était Paul. Aussi, écrivant aux Philippiens, il leur disait « Or, frères, je veux que vous sachiez que les circonstances par lesquelles je passe, son emprisonnement, sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'Évangile. En sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ, dans tout le prétoire et partout ailleurs. » Philippiens chapitre 1 versets 12 et 13. On savait partout que, s'il était prisonnier, ce n'était ni pour une cause politique, ni comme malfaiteur, ainsi que les Juifs l'en accusaient, Actes chapitre 24 verset 5, mais uniquement pour le nom de Christ. Combien les voies de Dieu sont admirables! Il fait concourir la malice même des hommes à l'accomplissement de ses desseins de grâce envers tous. L'Évangile pénétra ainsi dans le palais même de César, et y trouva des âmes qui le reçurent. C'est ce que nous disent ces paroles de l'apôtre. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César. Philippiens chapitre 4 verset 22. Qui étaient-ils? Quelle était leur position dans cette maison? Nous l'ignorons. C'étaient des saints de Dieu, voilà ce que nous savons d'eux. Dans le palais de celui qui devint un cruel tyran, au milieu de la corruption épouvantable qui régnait dans cette demeure, Dieu avait ses témoins. La fin du livre des Actes nous apprend aussi que Paul avait loué pour lui un logement, où il demeura 2 ans entiers, et que là il recevait tous ceux qui venaient vers lui, prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute hardiesse, sans empêchement, Actes chapitre 28 versets 30 et 31. Le Seigneur étendait sa bonne main sur son fidèle serviteur, et réjouissait son cœur en lui donnant de pouvoir prêcher la parole de Dieu, même dans les liens. Paul se rappelait, sans doute, les paroles encourageantes que son cher maître lui adressait à Jérusalem, quand il était en butte à toute la haine des Juifs. Et bon courage! Car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. Actes chapitre 23 verset 11. Et pour que ce témoignage fût rendu, Dieu ôtait les obstacles, inclinait les cœurs même des puissants de la terre, et l'Évangile, la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Romains chapitre 1 verset 16. Était annoncé hardiment dans la grande ville impériale, par celui qui avait écrit « Je suis débiteur et envers les Grecs et envers les barbares, et envers les sages et envers les inintelligents. Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. » Romains chapitre 1 verset 14 et 15. Combien d'âmes vinrent là, dans le logement de Paul, juifs ou d'entre les nations, pauvres ou riches, savants ou ignorants, pour entendre les bonnes nouvelles touchant Jésus-Christ, nous l'ignorons. Combien d'entre ceux qui vinrent, reçurent la parole et furent sauvés, nous ne le savons pas non plus. Le jour de Christ, ce jour où tout sera mis en lumière, fera connaître combien de fleurs auront été ajoutées là à la couronne de Paul. Voyez 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. Combien de joyaux au trésor du Seigneur. Nous connaissons au moins un de ceux qui crurent l'Évangile et furent un fruit du ministère de l'apôtre prisonnier. Ce n'était pas un grand de la terre, mais un pauvre esclave d'Asie, Onésime, qui s'était enfui loin de son maître Philémon, de Colosse. Le Seigneur l'amena à entendre Paul, nous ignorons par quelle voie, et lui fit trouver en Christ la vraie liberté, Jean chapitre 8 versets 32 et 36. Avec quelle affection Paul parle de lui. C'est son enfant qu'il a engendré dans les liens, dit-il à Philémon, en le lui renvoyant. C'est le fidèle et bien-aimé frère. Il avait autrefois été inutile à son maître, mais maintenant il était utile à Paul et à Philémon. Philémon versets 10 et 11, et Colossiens chapitre 4 verset 9. On voit comment le Seigneur réjouissait le cœur de son serviteur, en lui faisant goûter quelques fruits de son ministère dans sa prison. Le bienheureux serviteur de Christ rendait ainsi témoignage à son cher maître, et lui amenait des âmes. S'il lui était lié, la parole de Dieu ne l'était pas. Rien ne peut l'empêcher de se répandre. Pour le soutenir et l'encourager dans ses travaux, Dieu avait aussi donné à Paul plusieurs de ses amis et compagnons d'œuvre, qui l'avaient suivi et l'entouré dans sa captivité. C'était Epaphras, Marc, Aristarque, Démas, Luc, et d'autres encore. Timothée, son cher fils dans la foi, était aussi avec lui. Tous ces serviteurs de Dieu, encouragés par la fermeté de l'apôtre, ayant, dans le Seigneur, pris confiance par mes liens, dit-il, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer la parole sans crainte. Philippiens chapitre 1 verset 14. Les frères de Rome aussi, qui avaient eu un si grand plaisir à voir l'apôtre, et dont plusieurs lui étaient particulièrement connus, quelques-uns même étant de ses parents, Romains chapitre 16 verset 1 à 16, venaient, sans doute, le consoler et s'instruire auprès de lui. Ainsi se réalisait ce qu'il leur avait autrefois écrit, « Je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle, pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous. Vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. » Romains chapitre 1 verset 11 et 12. Les saints à Rome étaient affermis, l'apôtre était consolé, et, quoique dans les liens, il était au milieu d'eux dans la plénitude de la bénédiction de Christ. Romains chapitre 15 verset 29. Dans sa captivité, Paul recevait aussi des gages de sympathie et d'affection de la part de ceux au milieu desquels il avait travaillé et pour qui il avait été un instrument de bénédiction. Les Philippiens, en particulier, qui, lorsqu'il était encore en liberté, lui avaient fait deux fois, à Thessalonique, un envoi pour ses besoins, avait pensé que le prisonnier pour le Seigneur pouvait être à Rome dans les privations. Il lui avait donc envoyé des dons par Épaphrodite, un des leurs. Tels étaient les liens d'amour qui unissaient les assemblées à ceux qui travaillaient parmi elles. L'apôtre avait été profondément touché de se souvenir des Philippiens. Il le leur exprime dans sa lettre. « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur, dit-il, de ce que maintenant enfin vous avez fait revivre votre pensée pour moi, quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Or j'ai amplement de tout, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Philippiens chapitre 4 versets 10 et 18. Ainsi, dans cette captivité, bien des choses réjouissaient le cœur du serviteur de Christ. Affection des saints et des assemblées, dévouement de ses compagnons d'œuvre, et la possibilité de servir le Seigneur. Il y avait bien quelques ombres. Quelques-uns, dit-il, prêchent le Christ aussi par envie et par un esprit de contention. Cela annonce le Christ par esprit de parti, non pas purement, croyant susciter de la tribulation pour mes liens. Philippiens chapitre 1 verset 15 à 17. Mais le bienheureux apôtre s'élevait au-dessus de tous ses sentiments mesquins. Il n'avait en vue que la gloire de son maître. Christ étant annoncé, c'est ce dont il se réjouissait. Quant à lui-même, il se mettait volontiers entièrement de côté. Son activité ne se bornait pas à annoncer les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ à ceux qui venaient le visiter. Elle se portait aussi vers ces assemblées lointaines de la Grèce et de l'Asie, au milieu desquelles il avait enseigné. C'est à Rome, dans les liens, qu'il écrivit plusieurs de ses belles et précieuses épîtres, que le Seigneur, qui les avait inspirées, à conserver pour instruire et édifier son assemblée jusqu'à la fin. C'est de cette époque que datent les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens, à Philémon, et aux Philippiens. Dans la première, il s'exprime ainsi. Moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les nations, Éphésiens chapitre 3 verset 1. En effet, c'était parce qu'il avait annoncé Christ, venu pour les nations aussi bien que pour les Juifs, que ceux-ci, remplis de jalousie et de haine, l'avaient saisi et voulaient le faire mourir, Actes chapitre 21 versets 27 à 29, et chapitre 22 versets 21 et 22. C'est à cause de cela qu'il était à Rome dans les liens. Plus loin, il se nomme le prisonnier dans le Seigneur, et un ambassadeur lié de chaînes, Éphésiens chapitre 4 verset 1, et chapitre 6 verset 20. Dans l'épître aux Colossiens, il parle de lui-même comme lié, et nomme Aristarque, son compagnon de captivité. Il la termine par ce touchant appel. Souvenez-vous de mes liens. Colossiens chapitre 4 verset 3, 10 et 18. C'est là Philémon porte le même témoignage d'avoir été écrit en captivité. Paul, dit-il, prisonnier de Jésus-Christ, versets 1, 9, 10 et 23, et l'épître aux Philippiens est remplie, comme nous l'avons vu, d'allusions à la condition où se trouvait alors l'apôtre. Ainsi, la lettre aux Éphésiens, cette épître céleste, qui dévoile le mystère caché dès les siècles en Dieu, chapitre 3 verset 9, et qui place le chrétien et l'Église d'emblée dans le ciel en Christ, selon les conseils éternels de Dieu. Celle aux Colossiens, qui exalte la glorieuse personne du chef de l'assemblée. L'épître aux Philippiens, touchante expression de l'expérience d'une âme pour qui Christ est tout, vie, modèle, but, joie, et force, au milieu des circonstances de la vie. D'une âme qui, pour lui, a fait la perte de tout ici-bas, en vue d'un avenir céleste avec lui. Et enfin, la délicieuse lettre à Philémon, montrant quel tact et quelle délicatesse la vie en Christ communique à l'âme, même dans les relations ordinaires de la vie. Ces quatre écrits sortirent du cœur de l'apôtre sous la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il était captif, et nous montre dans quelle pure et sereine atmosphère il vivait, en même temps que sa sollicitude constante pour les saints. Et depuis, elles ont été pour les croyants un trésor de bénédiction, de consolation et d'encouragement. Dans les deux dernières épîtres, nous trouvons quelque chose de plus. C'est une indication positive que Paul recouvra la liberté. À Philémon, il écrivait « Prépare-moi aussi un logement, car j'espère que, par vos prières, je vous serai donné. » Philémon verset 22. Cela n'est encore qu'une espérance. L'apôtre n'a pas la certitude d'être rendu au saint en Asie. Mais en écrivant aux Philippiens, il exprime la certitude de les revoir. Il était prêt à mourir pour le Seigneur. Pour lui, déloger et être avec Christ était de beaucoup meilleur. Mais, dit-il, il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans la chair. Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour l'avancement et la joie de votre foi, afin qu'en moi vous ayez plus abondamment sujet de vous glorifier dans le Christ Jésus, par mon retour au milieu de vous. Et plus loin, j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai vous voir bientôt. Philippiens chapitre 1 verset 24 à 26 et chapitre 2 verset 24. Rappelons-nous que ce sont des paroles inspirées, et que l'apôtre ne dit pas ici, j'espère. Le Seigneur lui montrait qu'il était plus nécessaire pour les saints qu'il demeurât dans la chair. Aussi, dit-il, ayant cette confiance, je sais que je demeurerai, et cela non pas en captivité, mais en retournant parmi eux, afin qu'ils eussent ce sujet de se glorifier dans le Christ Jésus. Le Seigneur ne pouvait pas tromper cette confiance que l'apôtre avait en lui. L'épître aux Hébreux fut sans doute aussi écrite vers ce temps. Nous y lisons de même. Sachez que notre frère Timothée a été mis en liberté. S'il vient bientôt, je vous verrai avec lui. Hébreux chapitre 13 verset 23. Ainsi, après au moins 4 années de captivité, dont 2 à Césarée et le reste à Rome, Paul se trouva de nouveau libre. Sans doute, les charges avancées contre lui par les Juifs ne furent pas trouvées suffisantes pour motiver une condamnation. Festus et son conseil avaient déjà trouvé qu'il n'avait rien fait qui fût digne de mort, qu'il s'agissait seulement de questions touchant leur culte religieux, et un certain Jésus mort, que Paul affirmait être vivant. Et le roi Agrippa avait déclaré aussi, « Cet homme aurait pu être relâché, s'il n'en avait appelé à César, Actes chapitre 25 versets 19 et 25, et chapitre 26 versets 31 et 32. » Néron pensa probablement de même, et renvoya Paul à Psou. Que fit l'apôtre durant ce temps de liberté, qui d'ailleurs fut assez court? En écrivant aux Romains, alors qu'il ignorait encore de quelle manière il irait les voir, il avait exprimé sa formelle intention d'aller en Espagne, Romains chapitre 15 verset 28. Il put alors accomplir ce projet. Mais par les épîtres à Timothée et à Tite, écrites après sa captivité, nous apprenons avec certitude les noms de quelques endroits où il passa. Il se rendit en Asie mineure. Visita-t-il Éphèse? Il nous est dit simplement qu'il avait prié Timothée d'y rester, lorsque lui, Paul, allait en Macédoine. Premier épître chapitre 1 verset 3. L'apôtre avait dit aux anciens d'Éphèse qu'il ne verrait plus son visage, Actes chapitre 20. Mais il passa par Milet, J'ai laissé, dit-il, Trophime malade à Milet, 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Il traversa la Troade, où il laissa son manteau et ses livres chez Carpus, pensant, sans doute, y repasser, 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Dans cette tournée, il visite, sans doute, Colosse et son ami Philémon, ainsi qu'il en avait l'intention, Philémon verset 22. Avec Tite, il avait visité l'île de Crète, Tite chapitre 1 verset 5, et il se rendit en Macédoine, où nous ne pouvons douter qu'il n'ait vu ses chers Philippiens. Il avait aussi été à Corinthe, où Eraste était demeuré, 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Enfin, il se proposait de passer l'hiver à Nicopolis, ville d'Épire, contrée située à l'ouest de la Macédoine, Tite chapitre 3 verset 12. L'apôtre avait ainsi revu une partie du champ de ses précédents travaux, et, sans doute, avait été réjoui en retrouvant plusieurs de ses amis et de ses enfants dans la foi, et en pouvant encore annoncer Christ. Mais les choses avaient déjà bien changé de face. La ruine qu'il avait prévue, Actes chapitre 20 versets 29 et 30, s'accentuait, et en Asie, où il avait tant travaillé et où tous, tant juifs que grecs, avaient ouï la parole, Actes chapitre 19 verset 10, là même, il a la douleur de devoir dire. Tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi, 2 Timothée chapitre 1 verset 15. Phygèle et Hermogène, peut-être de ceux qu'il avait solennellement avertis en disant, « Je sais que d'entre vous-mêmes, il se lèvera des hommes annonçant des doctrines perverses, Actes chapitre 20 verset 30. » Ce dernier voyage fut donc, pour l'apôtre, mélangé de joie et de tristesse. La seconde épître à Timothée nous montre où en étaient venues les choses dans l'Église. Paul fut remis en prison et subit une captivité beaucoup plus dure que la précédente, captivité d'où il ne sortit que pour marcher à la mort. Comment se retrouva-t-il à Rome dans les liens ? Nous l'ignorons. Mais les temps étaient bien changés. Néron s'était affranchi de toute contrainte. Rien ne réprimait plus ses mauvais instincts, et il s'abandonnait sans réserve à sa cruauté et à la dissolution la plus effrénée. À son instigation, une affreuse persécution sévissait à Rome contre les chrétiens. Paul, l'ayant appris, voulut-il aller soutenir et encourager ses frères affligés, et fut-il alors saisi lui-même et jeté en prison? On peut le supposer, quand on connaît son cœur généreux et brûlant d'amour pour les saints. Sa vie ne lui était point précieuse, pourvu qu'il accomplisse son service pour le Seigneur, Actes chapitre 20 verset 24. Combien cette captivité différa de la première. Paul ne demeurait plus chez lui, jouissant d'une liberté relativement assez grande pour prêcher l'Évangile, et entouré d'égards comme un citoyen romain réservé au jugement de l'empereur. Il était dans une vraie prison comme faisant partie de la secte des chrétiens, objet du mépris et de la haine, non plus des Juifs seulement, mais de tous. J'endure des souffrances, disait-il, jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. 2 Timothée chapitre 2 verset 9. Si étroite et reculée était sa prison, si dispersée, sans doute, ses amis, Onésiphore d'Éphèse avaient dû le chercher soigneusement pour le trouver. ce n'était plus le temps où ces liens étaient connus dans tout le prétoire. L'apôtre n'était plus comme autrefois entouré de ses amis, de ses compagnons d'œuvre et de captivité, qui adoucissaient ses liens en coopérant avec lui dans l'Évangile. Éraste était demeuré à Corinthe, il avait laissé Trophime malade à Milet, il avait envoyé Tychique à Éphèse, Crescens était allé en Galatie, et Tite en Dalmatie. Et Démas, autrefois son compagnon d'œuvre, hélas, l'avait abandonné, ayant aimé le présent siècle, 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Le vide s'était fait autour de lui. Luc, le médecin bien-aimé, seul était avec lui. Aussi l'apôtre éprouvait-il le désir ardent d'avoir auprès de lui Timothée, son enfant bien-aimé. Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, lui écrivait-il. Empresse-toi de venir avant l'hiver, 2 Timothée chapitre 4 versets 9 et 21. Il savait que sa carrière terrestre touchait à sa fin, et il désirait revoir celui qui lui était si cher, qui s'employait à l'œuvre du Seigneur comme lui-même. Il lui recommande en même temps de lui rapporter ce manteau et ses livres qu'il avait laissés chez Carpus, en Troade, à un moment où il croyait, sans doute, revoir ce disciple. L'hiver approchait, et Paul, au lieu de le passer à Nicopolis, avait à en supporter les rigueurs dans sa prison. Il avait besoin de son manteau. Ce n'était plus le temps où il disait « J'ai amplement de tout, je suis comblé » Philippiens chapitre 4 verset 18. Non, maintenant il était vieux, pauvre, isolé et dénué. Un dernier trait touchant de sa requête à Timothée, celui-ci. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile dans le service. 2 Timothée chapitre 4 verset 11. Il y avait eu un moment où Marc avait abandonné le service, et où Paul ensuite n'avait pas jugé à propos de le prendre avec lui. Mais le Seigneur avait enseigné et fortifié Marc pour le rendre propre à servir, et Paul le reconnaît sans arrière-pensée. Quel bel exemple de grâce chez le maître et chez son apôtre, 2 Timothée chapitre 4 verset 9 à 13 et 20, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 10, et Actes chapitre 13 verset 13, et chapitre 15 verset 37 et 38. Toutefois, au milieu de cette solitude et dans ces jours sombres, le Seigneur avait fait briller un rayon de lumière qui était venu réjouir son serviteur. Onésiphore d'Éphèse, chrétien au cœur dévoué, qui avait déjà rendu bien des services dans l'assemblée de cette ville, était venu à Rome et avait cherché Paul pour le voir. À cette époque de persécution, c'était s'exposer singulièrement que de témoigner de l'intérêt à un prisonnier chrétien. Mais Onésiphore ne s'était laissé ni décourager par la difficulté de trouver l'apôtre, ni effrayé par le danger. « Il m'a cherché très soigneusement, dit l'apôtre reconnaissant, et il m'a trouvé. Il m'a souvent consolé et n'a point eu honte de ma chaîne. » 2 Timothée chapitre 1 versets 16 et 17. Son dévouement pouvait lui coûter la vie. Aussi combien le témoignage de Paul à son égard est beau. Dans nos jours de tiédeur, il serait bien à désirer que le dévouement et l'amour pour le Seigneur et les saints fussent ranimés. Onésiphore est un de ceux à qui le Seigneur peut dire « J'étais en prison, et vous êtes venu auprès de moi. » Paul pensait à ce jour des rémunérations, lorsqu'il dit « Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là. » 2 Timothée chapitre 1 verset 16 à 18, Et Matthieu chapitre 25 verset 36. Des chrétiens de Rome, autant qu'ils le pouvaient, venaient sans doute aussi le consoler. Eubulus et Pudence, et Linus et Claudia, et tous les frères, te saluent, dit-il. 2 Timothée chapitre 4 verset 21. Mais combien en restait-il de ceux qu'il saluait à la fin de son épître aux Romains? Combien n'y en avait-il pas qui avaient laissé leur vie pour Christ dans les cruelles tortures des jardins de Néron? Comme nous l'avons dit, Paul avait rapporté dans sa prison des souvenirs douloureux de l'état de l'Église. Elle était devenue comme une grande maison, où des vases à déshonneur se trouvaient à côté des vases à honneur. Il fallait se purifier des premiers. Tous ceux d'Asie s'étaient détournés de l'apôtre et de ses enseignements. De faux docteurs renversaient la foi de quelques-uns. On avait la forme de la piété, en en reniant la puissance. Il fallait se détourner de tels gens. Quelle douloureuse épreuve pour le cœur de l'apôtre, de voir cette ruine. À cela s'ajoutaient les attaques de ses ennemis. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, dit-il, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Était-ce le même Alexandre que nous voyons mis en avant à Éphèse par les Juifs, sans doute pour s'opposer à Paul et justifier ceux-ci? De quelle manière Alexandre avait-il montré sa méchanceté envers lui, nous l'ignorons. Mais ces quelques mots nous font entrevoir une des souffrances de l'apôtre pour Christ. 2 Timothée chapitre 2 verset 17 à 21, chapitre 3 verset 5, et chapitre 4 verset 14, et Actes chapitre 19 verset 33. À la fin de sa carrière, pauvre, en prison et avancé en âge, il se voyait en butte à l'abandon de la part des uns, et à la haine de la part des autres. Et comment supportait-il toutes ces souffrances? Était-il abattu, découragé, après sa longue vie de combat et en voyant cette assemblée qui lui était si chère être la proie des loups ravissants et des hommes qui annonçaient des doctrines de perdition? Ne lui semblait-il pas que son travail était vain? Non. Il regardait en haut, à celui en qui se trouve toute ressource, et dans son cœur il remontait jusqu'au dessein éternel de Dieu, qui ne peuvent manquer. Il était ainsi en état non seulement de supporter l'épreuve avec patience, mais aussi d'encourager les autres. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, écrit-il à Timothée, mais de puissance, et d'amour, et de conseil. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Je souffre ces choses. Mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 à 12. Voilà ce qui soutenait Paul au milieu des souffrances de toutes sortes. Il avait confiance en celui qu'il avait aimé et sauvé, et par-delà les tribulations du moment, il voyait resplendir la gloire du jour à venir. J'endure tout pour l'amour des élus, disait-il, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée chapitre 2 versets 10 à 12. Enfin, l'apôtre comparut devant César. Il pouvait se rappeler le jour où il avait présenté son apologie devant Festus, Agrippa et Bérénice, et avait dit « Plût à Dieu que vous devinssiez de toute manière tel que je suis, hormis ces liens, Actes chapitre 26 verset 29. » L'esprit de courage et d'amour qui l'animait alors, brûlait sans doute toujours le même dans son cœur. Mais combien la scène était maintenant plus solennelle et plus propre à émouvoir son cœur. Il n'avait plus devant lui des hommes plus ou moins bienveillants pour lui. C'était l'empereur, le cruel Néron, qui avait déjà infligé tant de souffrances aux chrétiens détestés. C'étaient les grands de sa cour, aussi habitués que lui avoir versé le sang. C'était, sans doute, une foule de juifs et de païens venus pour assister au procès de celui qu'on accusait d'être une peste, un meneur de la secte des Nazaréens, excitant partout des séditions, Actes chapitre 24 verset 5. Et qui tous étaient avides d'entendre prononcer sa sentence de mort. Et qui était avec Paul? Quels amis étaient venus pour encourager par leur présence et leur sympathie le vieux chrétien, le combattant éprouvé, le prisonnier pour le Seigneur? Personne. La crainte de l'opprobre et de la colère des hommes les avait tous retenus. Dans ma première défense, dit Paul, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. 2 Timothée chapitre 4 verset 16. Il était seul. Oui, seul aux yeux des hommes, mais un ami fidèle, celui qui ne manque jamais, celui qu'autrefois Étienne voyait par l'esprit et qui le soutenait devant le Sanhédrin, Actes chapitre 7 versets 55 et 56, était aussi là, invisible à tous. Mais présent au cœur de l'apôtre. Tous m'ont abandonné, mais, ajoute-t-il avec une indicible expression d'amour, le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Cela lui suffisait. Il m'a fortifié, continue Paul, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie, et que toutes les nations l'entendissent. Quelle prédication? Celle qu'il avait fait entendre à Félix, à Festus et à Agrippa. L'évangile qui annonce un Christ ressuscité dans la gloire. Un Christ qui ouvre les yeux à la lumière céleste et fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Un Christ qui doit un jour apparaître en gloire, et juger tous les hommes. Oui, le puissant et redouté empereur Néron, l'homme souillé de tant de crimes, entendit en ce jour-là le solennel appel de Dieu, et avec lui, tous ses nobles et la foule qui entourait le tribunal. Jamais semblable accusé ne s'était vu, jamais de telles paroles ne s'étaient entendues dans ce lieu. Paul accomplissait ainsi pleinement son service. C'en était le couronnement. Le Seigneur l'avait mis à part pour porter son nom devant les nations et les rois, et il venait de le proclamer devant le plus puissant monarque d'alors, 2 Timothée chapitre 4 versets 16 et 17, et Actes chapitre 26 verset 18, et chapitre 9 verset 15. Quel fut le résultat de cette première défense? Paul écrivait à Timothée, « J'ai été délivré de la gueule du lion », 2 Timothée chapitre 4 verset 17. Néron fut-il saisi, comme Félix, par la puissance de la vérité et troublé dans sa conscience? dit-il à l'apôtre. Pour le moment, va-t'en, je te ferai appeler une autre fois. Actes chapitre 24 verset 25. Nous l'ignorons. Paul, cette fois, échappa à la gueule du lion. Mais ce n'était qu'un répit, et le cher serviteur du Seigneur le savait bien. Pour moi, écrivait-il encore à son disciple bien-aimé, après l'avoir exhorté à accomplir pleinement son service, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Il attendait la mort. Son sang allait être répandu comme le vin dont on faisait des libations après les sacrifices. Mais que lui importait? Pour lui, mourir était un gain. Philippiens chapitre 1 verset 21. C'était aller auprès du Seigneur, ce qui était bien meilleur. Que Christ fût magnifié dans son corps, soit par la vie, soit par la mort, Philippiens chapitre 1 verset 20, c'était ce qu'il désirait. Et Christ venait d'être magnifié devant tous dans le témoignage qu'il avait rendu en accomplissant pleinement la prédication. Que pouvait maintenant l'empereur, que pouvait le bourreau, sur celui qui se considérait toujours comme livré à la mort pour l'amour de Jésus? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 11. Qui comptait sa vie pour néant, pourvu que son maître fût glorifié. Rien. Et quelle perspective glorieuse s'ouvrait devant les yeux du saint apôtre? Les splendeurs du jour de Christ, la gloire de son apparition, la couronne de justice que le Sauveur poserait sur la tête du fidèle combattant, et, au-dessus de tout, le bonheur d'être pour toujours avec le Fils de Dieu, qui l'avait aimé et s'était donné pour lui. Galates chapitre 2 verset 20. C'était assez pour voiler aux yeux de Paul sa triste prison, l'abandon de tous, les souffrances, l'opprobre et la hache du bourreau, et pour le faire s'écrier en triomphe. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains chapitre 8 versets 35 à 39. Nous ne savons rien d'une autre comparution de Paul devant Néron, rien de sa sentence, rien de sa mort. Le témoignage des anciens historiens ecclésiastiques est que, comme citoyen romain, il fut décapité vers l'an 67. Absent du corps, il est présent avec le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8, et il attend avec tous les autres martyrs, et aussi avec tous les croyants, le moment où Jésus reviendra en gloire. Qu'il nous soit donné d'imiter sa foi, considérant l'issue de sa conduite, Hébreux chapitre 13 verset 7.